France Inter.
Moi, j'ai l'impression que quand je vois plus la Terre, je rentre chez moi. C'est dans cet univers que je vais pouvoir me laisser aller en mer. Si vous voulez que ça se passe bien, il faut lâcher prise. Il faut s'abandonner à la mer et au vent.
Quand mon père m'a prêté son appareil photo à 12 ans et où j'ai eu ce chevreuil qui est venu tout près, où j'ai pu figer ce moment complètement fou, suite à ça, c'était ma quête incessante de revivre des instants de grâce comme ça avec des bêtes sauvages sans qu'ils m'aperçoivent.
Elle navigue et elle écrit, lui prend des photos et tourne des films dans des conditions parfois extrêmes, de vivant au service du vivant. Conscients de la fragilité de notre environnement, ils consacrent leur vie à s'aventurer sur l'eau ou dans les terres pour profiter, pour partager, pour alerter. Quand on aime, on défend. Bonjour Isabelle Autissier.
Bonjour.
Navigatrice, écrivaine, présidente d'honneur de l'association WWF France. Est-ce que je devrais commencer plutôt aujourd'hui par écrivaine ?
Je ne sais pas par quoi il faut commencer, c'est un mélange de tout ça et c'est ça que je défends. C'est que je ne suis pas dans une boîte, je suis juste ce que j'essaye d'être.
Je suis plusieurs.
Forcément, on est tous plusieurs.
Votre nouveau livre chez Paulsen, La fille du grand hiver, retrace la vie d'une héroïne du Groenland. Vous avez invité le photographe animalier et cinéaste Vincent Munier. Bonjour.
Bonjour.
On vous doit des images de nature et d'animaux sauvages incroyables, des livres, des films comme La panthère des neiges en 2021 avec Sylvain Tesson, réalisé avec Marie Amiguet. Vous terminez un film, Vincent Munier, sur la forêt et la transmission que nous verrons en décembre.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ça s'appelle toujours Le Chant des Forêts ?
Le Chant des Forêts, ça n'a pas bougé.
Merci de venir des Bauges pour le grand atelier d'Isabelle Autissier. Nous irons aussi à Pont-Aven tout à l'heure découvrir une exposition consacrée aux sorcières. 17h06, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter. Le grand atelier. Vincent Josse.
Moi, j'aime bien vous imaginer tous les deux quand vous êtes en activité. Isabelle Autissier sur son bateau, même si vous ne faites plus de courses en solitaire, mais des courses en équipage. Vincent Munier à l'affût, en France ou en Norvège ou ailleurs, avec au Tibet par exemple, avec sa panthère des neiges, avec son appareil photo et son bonnet très important. Dans un silence humain absolu tous les deux, dans un état de veille et d'urgence, vous avez tous les deux, entre autres, une expérience que tout le monde ne vit pas, qui est une expérience commune à vous, c'est la solitude. Comment on supporte ça, Isabelle Autissier ?
On la supporte parce qu'on l'a choisie. Ce n'est pas la solitude des vieillards abandonnés, des prisonniers, des malades. C'est la solitude comme un moment de respiration. Moi, j'adore le monde, j'adore être avec plein de gens. Mais c'est vrai que j'ai besoin régulièrement de respirer toute seule. Je peux le faire en mer, je peux le faire aussi à terre. Ça a un côté apaisant quand même. Ça a un côté, voilà, on stoppe un peu toutes les contraintes sociales. Et puis, c'est presque un recueillement, quoi. On est avec soi-même, avec ses pensées, on peut les laisser aller librement. Et pour moi, c'est vraiment des instants indispensables. J'ai vraiment besoin de moments de solitude.
Vincent Munier ?
Ouais, moi, c'est un peu aussi un paradoxe. J'ai aussi besoin d'être entouré, finalement, je m'en rends compte. Mais ces besoins de solitude sont précieux. Et pourquoi ils sont arrivés assez tôt ? Parce que je savais que c'était le moyen pour être le plus discret possible, le plus caché, pour toujours cette quête de la rencontre avec la bête sauvage. Et quand on est deux, on fait deux fois plus de bruit, deux fois plus d'odeur. Donc je pense que c'est déjà venu de là. Mais c'est vrai que ces derniers temps, là, ça me manque. Parce que dès que je suis parti sur des projets cinéma ou films, et on est toujours deux ou trois. Et là, les grandes expéditions en solitude me manquent parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu indispensables à chacun.
Mais c'est une quête de solitude, mais aussi une quête de beauté pour vous deux, Isabelle Autissier.
Oui, bien sûr, et ça prend forcément une dimension différente. C'est-à-dire que la beauté, on peut être plusieurs à l'appréhender quand on est sur le bateau et que c'est magnifique autour, ou qu'on voit des oiseaux, des baleines, que sais-je. Quand on est seul, ça a trait à l'universalité, en fait. Mmh. C'est tout d'un coup, on est une espèce de représentant d'Homo sapiens, dans des lieux de la planète, mais des lieux effectivement décalés. Et du coup, le face-à-face avec les animaux ou avec les éléments prend une autre dimension. Oui, un peu plus universelle.
Vincent Munier.
Je trouve, les émotions sont démultipliées. Vraiment, que ce soit les angoisses, les émotions qui sont fortes. Et ça n'a rien à voir, il n'y a personne à qui raconter ce qu'on est en train de voir ou de partager, c'est que pour toi. Et moi toujours les expéditions un peu engagées en Arctique canadien, là, tout seul, ça reste les souvenirs les plus forts, vraiment.
Quand les loups arrivaient, les loups
blancs. Par exemple, et puis plein d'autres de moments. Alors c'est un peu dur de dire ça, c'est presque un peu égoïste, je le partage d'une autre manière, mais c'est pas la même intensité, je trouve, c'est différent.
Est-ce que vous êtes égoïste ?
Oui, forcément, au sens où je pense que l'un et l'autre, d'ailleurs, on a construit nos vies sur ce qui nous importait, sur là où on pensait qu'on pouvait amener quelque chose. Et pour faire ça, on s'abstrait aussi parfois de la réalité des autres.
Mais donc, c'est difficile, par exemple, de construire une vie de couple et de famille, Vincent Munier ?
Oui, c'est compliqué. Moi, je pense qu'avec tout passionné, quand on a une passion qui est dévorante, et c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un peu d'égoïsme, mais qui est un petit peu peut-être apaisé par ce qu'on fait, parce que Isabelle encore plus. Enfin, on est dans un partage énormément. Toi avec ton bateau et puis plein de puis tes récits ou autres. Moi, les images. Là, j'avoue que le dernier film, il était un peu épuisant, et j'aurais aimé ne pas le faire presque. Et je le fais, c'est parce que je me rends compte que cette passion égoïste, elle a besoin d'être. J'ai une situation privilégiée qui est devenue un peu égoïste et il faut que je la partage. C'est quand même comme une dette. Je me rends compte de cette chance qu'on a eue. Donc là,
ça me rappelle.
Ça masque un petit peu le côté égoïste. Mais
ça me rappelle Cartier-Bresson, le photographe. Il disait oui, le photographe est un voleur. Voler, mais pour donner.
Oui.
On va écouter un peu de musique. C'est aussi la tradition du Grand Atelier. On a choisi quelqu'un qui va faire plaisir, entre autres, à Isabelle Autissier, mais j'espère aux auditeurs aussi. C'est Janis Joplin. Pourquoi est-elle si importante dans votre vie, Isabelle ?
Parce que c'est quand même une figure de moment où je suis étudiante, où c'était le grand moment où Janis Joplin était une figure aussi extrêmement importante. Et que pour moi, c'était vraiment la femme libre. Elle avait cette espèce de force intérieure absolument incroyable qui transparaissait dans sa voix. Et je me disais, c'est ça qu'il faut capter, quoi. C'est cette espèce de force intérieure.
Little Girl Blue. Vous fumiez vos premières cigarettes en l'écoutant ?
Sans doute, oui.
Sit there. Count your fingers. What else? What else is there? You're through. Oh, oh, oh.
honey, go on and sit right back down. I want you to count.
On est bien en compagnie aujourd'hui dans le grand atelier de deux êtres engagés, de deux artistes, au fond une écrivaine et un homme de l'image, deux sportifs, une navigatrice à qui rien ne semble faire peur depuis l'âge de 12 ans, surtout pas à 34 ans, première femme à accomplir un tour du monde en solitaire en 139 jours et 4 heures, les 4 heures sont sans doute très importantes, et un photographe animalier qui marche, qui escalade, qui dort la nuit dans des cabanes et ça le rend heureux. Deux contemplatifs, il y a sans doute dans leurs aventures du temps pour observer et jouir du moment présent. Et puis deux politiques, Isabelle Autissier et Vincent Munier sont des militants. Vous appelez tous les deux, chacun dans son genre et dans son domaine, à prendre conscience de la fragilité de la planète, de la vie sur Terre et dans les océans. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille, Isabelle Autissier, de vous deux ?
Oui, ben je pense qu'on a tous les deux la notion que nous faisons partie de la nature. Vincent, à travers ses photos, moi, à travers mes navigations et mes textes. Aujourd'hui, nos sociétés dites développées, elles ont tendance à penser qu'on est au-dessus ou à côté ou je sais pas où, qu'il y aurait la nature et la culture. Alors, en fait, nous, on sent profondément qu'on en fait partie et que notre vie, elle est aussi importante que celle du poisson, de l'abeille, des ours que va voir Vincent. Et ce sentiment d'inclusion fait que c'est à ce nom-là qu'on se bat pour la nature et pour l'environnement.
Et c'est vrai que derrière vos photos, vous, Vincent Munier, derrière les ours, les yaks, les loups, les panthères, il y a, faites attention, c'est un équilibre précaire, il y a danger, il y a urgence. J'ai l'impression que vous êtes aussi dans ce militantisme-là, qu'il faut appeler comment d'ailleurs ?
Oui, alors,
militantisme écolo, militantisme...
Non, peut-être un peu plus doux, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de respect, et puis pour ceux qui sont vraiment, j'appelle ça un peu en première ligne, quoi. Et c'est vrai que sans les associations, je ne sais pas où en serait notre nature sauvage en ce moment, et ceux qui sont très engagés et qui vont au combat, ben, comme toi aussi Isa, avec le VVF et plein d'autres, vraiment il faut avoir une force de caractère. Moi je me sens un peu fragile pour être vraiment dans le combat, mais il est un peu différent. Il est différent, c'est par le beau, c'est par par l'esthétisme un peu, j'espère, en tout cas, par essayer de partager tout ça. Je suis persuadé que quand même, avec une méthode un petit peu, un peu douce, comme ça, avec le beau, on arrive quand même à, je le vois localement, dans l'Est de la France ou dans les Vosges, amener des choses et des résultats.
L'idée qu'il faut faire attention, que nous dégradons la planète, l'environnement, elle n'est pas d'aujourd'hui. Isabelle Autissier, on a retrouvé avec Lucie Lemarchand une archive de 1979. C'est un grand explorateur polaire, scientifique, ethnologue, écrivain qui parle sur Antenne 2 à l'époque. C'est Paul-Émile Victor.
Nous sommes dans la merde jusqu'au cou. L'homme est tellement sûr de lui-même avec les progrès de la technique. Et il a appris qu'il est beaucoup plus fort que tout le reste. Il a par conséquent le sentiment que il ne peut rien lui arriver, ou s'il lui arrive quelque chose, vraiment, c'est pas de sa faute. La grande erreur, je pense, que l'homme fait, est de penser que ce qu'il fait, lui, n'a pas d'importance, qu'il n'y peut rien, le aquabonisme dont je parle, alors que ce sont les autres qui devraient faire quelque chose d'abord, et les gouvernements, les États en particulier. Or, ça commence par lui.
On est dans la merde, Isabelle Autissier ?
Oui, on est dans la merde, je confirme. C'est un peu tragique d'entendre ça et de se dire que...
79.
Alors, il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait, ce n'est pas vrai. Déjà, ne serait-ce que la prise de conscience, on n'aurait peut-être pas cette conversation comme ça, dans une émission plutôt littéraire, il y a 50 ans. Donc oui, les choses ont quand même avancé, parce que si tout le monde voit devant sa porte les changements, on voit bien qu'on n'a plus de moucherons sur les pare-brises de nos voitures, on voit bien que les oiseaux dans nos campagnes, ben voilà, il n'y en a plus. Voilà. Donc il y a quand même cette prise. Il y a des gens qui se mobilisent, tu as parlé des associations, il y a aussi des gens individuellement. Il ne faut pas dire que les gouvernements n'ont rien fait, ils ont fait des choses, mais absolument pas assez. Or, leur signal est indispensable. Et puis en ce moment, on est plutôt malheureusement dans une période de régression, hein, voir ce qui se passe en France ces temps-ci. Donc oui, si on continue sur cette lancée-là, nous, les hommes, les humains, on se prépare des lendemains qui vont sacrément déchanter. Mais il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que, en gros, quand vous foutez la paix à la nature, elle arrive à reprendre le dessus parce que la vie est incroyablement puissante. Ça marche pas à tous les coups, mais pratiquement à tous les coups. Moi, je vois les aires marines protégées quand elles sont vraiment protégées, quand c'est pas juste des bouts de papier. Bah, au bout de quelques années, on a une explosion de vie à l'intérieur des aires marines protégées.
Quoi. Est-ce que Vincent Munier voit aussi les choses s'améliorer, même si les choses sont détériorées? Le petit garçon, l'adolescent que vous étiez, il voyait plus d'animaux qu'aujourd'hui.
Ah, oui, là, c'est terrible, c'est terrifiant. J'ai même fait une... Je suis presque un émigré naturaliste, on va dire. Je suis parti de la plaine des Vosges pour aller en montagne, ou en plaine, on avait la possibilité d'exploiter à tort et à travers les terres, intensification de l'agriculture, qui a fait partir mes petites linottes, mes chardonnerets, mes pigrièches écorcheurs, tous ces petits oiseaux que j'ai vus quand j'étais ado. Mais comme tu le dis, Isabelle, si bien, à mon avis, c'est ça qui est chouette en même temps. Autant sur le réchauffement du climat, c'est quand même assez compliqué, on est tous embringués, mais sur le retour de la vie dans des endroits qui ont souffert, ça peut venir très vite. Et ça, c'est encourageant. Et ça se voit dans les plaines, hein. Dès qu'on remet des haies, qu'on fait des mares, des murets, je le fais autour de ma ferme, à une petite échelle, les associations le font différemment, c'est impressionnant de voir à quel point la vie peut revenir.
Je vous trouve souriant et pas déprimé tous les deux.
Ah si, à l'intérieur de moi, il y a
c'est vrai.
Quelque chose de...
Il y a une grande tristesse.
Il y a une grande souffrance, une grande tristesse. Mais je pense qu'elle n'est pas constructive si je la mets trop en avant. Et je préfère montrer la beauté des images, des bêtes qui nous entourent et puis des actions concrètes. Ouais.
Il y a une chose que j'aimerais que vous nous racontiez, c'est comment vous vous êtes connus, est-ce que vous avez vécu ensemble si la moralité, bien sûr, point.
On a presque un peu vécu ensemble, puisque Vincent est venu sur mon bateau, on a navigué ensemble au Spitzberg, donc c'était absolument génial. C'est là aussi qu'on s'est vraiment découvert, on s'était croisés en fait dans des festivals, Et puis en fait c'était un peu un hasard, j'allais faire ce voyage, et en fait il y avait une place de libre, on peut être six, il y avait une place de libre, et je me dis, moi j'aime bien que le bateau soit plein, que tout le monde en profite. Je me dis, mais qui? Ah bah tiens, Vincent Munier, tiens. Et je lui envoie un petit mot, et à ce moment-là il me dit, bah ça tombe bien, j'avais une mission qui s'est annulée, je suis libre.
Vous n'avez pas le mal de mer, Vincent.
Non mais puis j'étais super flatté, quoi. Ouais. Je me souviens très bien du moment où j'ai reçu ton mail, Isa. Non, j'étais le petit Vosgien qui est sollicité par une grande navigatrice pour aller au Spitzberg. Non mais j'ai vraiment été flatté, et c'était en plus c'était un voyage extrêmement réparateur.
Dites-nous où c'est cette région.
Bah c'est l'Arctique, on est à 80 degrés de latitude nord, et donc c'est un petit paradis pour les ours polaires.
Vous en avez vu?
On en a vu, on a eu des belles observations.
On les a observés longuement, parce que ça c'est la méthode Munier que j'ai découverte.
Donc vous êtes descendu du bateau?
Oui, et puis moi c'était ma première expérience en voilier.
Ah oui, en voilier.
Sur un voyage au long cours comme ça, donc c'était quand même pas rien de faire un premier voyage avec Isabelle.
D'une part, elle est comment sur un bateau, Isabelle Autissier?
Elle est comme sur Terre. Non, mais franchement, elle est. Mais il y a un côté. Il y a un côté solide.
Ouais.
Un côté, voilà. Ça, quand même, ça rassure. Sur Terre ou sur Mer, il y a un côté qui est. Voilà, il y a un ancrage.
On est dans l'île, avec Vincent Munier qui a un énorme appareil photo et un sac à dos plein. Et vous aussi, c'était une première fois suivre un aussi grand photographe animalier.
Oui, alors ce qui est génial, c'est que le bateau permet ça. Le bateau permet d'aller assez silencieusement dans les petits recoins, dans les... voilà. Et c'est vrai que la méthode Munier, je l'ai découverte parce que quand on voit un ours sur la côte, donc on s'arrête avec le bateau, on monte dans la petite annexe pour s'approcher. Donc on ne va pas à terre parce que à terre, ça va le déranger. Et donc, on reste dans notre petite annexe pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Il neige, il y a un peu de soleil, il reneige.
Quatre heures.
Et on est là, et moi, c'est ce que j'ai vraiment découvert dans sa méthode. On est au rythme de ces animaux. On n'est pas là pour, par exemple, les exciter, pour qu'ils s'énervent et tout. Et qu'on
pour la bonne
photo,
image.
Faire la, voilà. Non, c'est vraiment dans l'intimité et dans la vérité. Du rythme de ces animaux. Et quand l'ours il fait la sieste pendant une demi-heure, il fait la sieste pendant une demi-heure.
Et vous le regardez.
Et nous, on est sous la neige et on attend qu'il se réveille.
Et on ne parle pas.
Non, on ne parle pas ou on chuchote justement pour pas le. Il sait très bien qu'on est là, il nous a sentis. Hein. Mais voilà, il ne faut pas le perturber le moins possible.
Ça, c'est génial.
Non, mais ça, c'est une technique que mon père m'a apprise très tôt, de s'effacer et surtout de ne pas interagir avec les animaux. Et c'est là qu'on a vraiment des moments incroyables. Mais le bateau, non, ton bateau, c'est le meilleur des affûts aussi. Rien que le bateau. Et puis on est partout, on peut être mobile. Un peu à l'image de mon petit traîneau, la Pulka que je tire, où il y a tout dedans. Là, c'est un peu plus gros. Mais je trouve ça hyper excitant.
C'est beau que chacun ait appris de l'autre.
Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec ce bateau depuis une vingtaine d'années que je laisse.
Avant, vous emmeniez hors Sénat, l'écrivain.
Par exemple, j'ai emmené des scientifiques, j'ai emmené des alpinistes, Lionel Daudet en particulier. Ouais. Et à chaque fois, il y a ce temps de navigation, il y a cette idée qu'on a un but commun entre les marins et les moins marins, on va dire, qu'on se donne une mission, entre guillemets, et qu'il y a énormément d'échanges, et ça, c'est génial, quoi.
J'ai une idée à vous soumettre. Vous devriez emmener un journaliste radio.
Pourquoi pas?
On écoute Biolay dans le grand atelier d'Isabelle Autissier avec Vincent Munier.
Ça valait le coup d'essayer, le coup de la peine dorée, le diable en déshabillé, vêtu de rien qu'un grain de beauté, ça valait le coup d'en finir, y en a même certains que ça fera rire, et d'autres bien emmerdés. Parfumé, de noir habillé, belle persole fumée. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. De linge mouillé, mes lames à peine maculées. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables péchés. Vos péchés, quant à vous, sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui certes encore confondez. Voix de départ et voix d'arrivée, corail et intercité. Je crie ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. Mes yeux la fait sur mon berceau qui de près s'est penché. Je crie ça juste avant de tomber. J'ai pas grand chose à vous dire. Je vois les belles choses que j'avais oubliées. Et si je n'étais pas un oiseau à mon nom, aurais-je peur de chuter de si haut?
C'est Benjamin Biolay qui fait un peu tourner la tête là d'Isabelle Autissier. C'était mignon ce balancement. La chanson, c'est juste avant de tomber.
Le Grand Atelier sur France Inter.
En me promenant en forêt, je viens de tomber là-dessus. Vous en doutez, c'est un bois de serre. Et au-delà de ma joie immense d'avoir trouvé un bois, je vais essayer de vous parler un petit peu de ces bois de serre. La première chose, c'est que les pics que vous voyez sur ce bois, on appelle ça des cors. Et là, il y en a 6. Ça veut dire que c'est un 12 corps lié au fait qu'il y a deux bois. Ces corps ne déterminent pas l'âge du cerf. Un vieux cerf peut avoir très peu de corps, comme un jeune peut en avoir beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt pour d'autres histoires naturalistes.
Cette voix est celle d'un jeune photographe animalier, jeune naturaliste, il a 22 ans, dont on suit les aventures de naturaliste et de photographe en France et à l'étranger sur Instagram. C'est passionnant, c'est très bien fait. Je voulais que vous fassiez sa connaissance, Isabelle. Il réalise des vidéos incroyables. Bonjour Antoine Laborel.
Bonjour Vincent.
Où est-ce que vous êtes ?
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors je suis dans les Alpes, je suis un peu perdu. Au milieu de la montagne, dans les rochers, là je regarde dans mes jumelles si j'arrive pas à retrouver les bouquetins que j'ai vus tout à l'heure. Mais je les retrouve pas. En écoutant la musique, je cherchais, mais j'ai rien vu.
Vous pensez qu'on les dérange, là qu'on parle trop fort ?
Non, ça devrait aller. Ça devrait aller, je crois qu'ils sont loin.
Antoine, c'est Vincent Munier qui vous avait invité par téléphone déjà il y a quelques années dans son grand atelier. Vous étiez stagiaire chez lui dans les Vosges, vous aviez 19 ans. Aujourd'hui, 22 ans, vous êtes un homme. J'ai l'impression que vous vous êtes professionnalisé depuis. Vous faites certes des photos, mais aussi du son, de la vidéo, avec un montage très précis, très serré, très efficace. Est-ce que vous vivez de ce métier déjà ?
Eh bien, plus ou moins, mais toutes ces connaissances, je les ai acquises en grande partie grâce à Vincent. Hein. C'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses. Parce que j'ai passé pas mal de temps après mon stage avec lui à travailler sur son film qui sortira bientôt. Et donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses que maintenant je mets un peu en pratique dans ces petites vidéos Instagram et pour les réseaux sociaux, même si ce n'est pas la même approche. C'est beaucoup de choses que j'ai appris là, dans les Vosges.
On a l'impression que c'est votre père qui vous écoute. Quand je regarde Vincent Munier, il a un grand sourire.
Non mais quelle surprise déjà.
Ah oui, vous ne le saviez pas. Hein
ah oui, mon filou, on l'a vu au bouquetin, Vénard. Oui, non mais moi ça
et
fait
ouais,
vraiment plaisir.
Il y a encore une heure, il y avait les têtes à lire qui chantaient. C'était doux.
Magnifique.
Qu'est-ce qu'il vous a transmis, Vincent Munier, puisque le mot transmission est aussi important pour Isabelle Autissier que pour Vincent Munier, Antoine Laborel?
Eh ben non, mais c'est dur à dire, beaucoup de choses. Il m'a appris à dormir moins parce que je dormais trop et puis il se réveille toujours, lui il dort pas, alors c'est j'ai dû apprendre à faire avec moins de sommeil. Non, qu'est-ce qu'il m'a appris sinon? Non, mais tout plein de choses et puis des connaissances évidemment naturalistes que je n'avais pas et une intuition des fois. Moi, ça m'a absolument impressionné certaines fois quand on cherchait le lynx. J'avais l'impression qu'il savait que le lynx était là sans qu'on ait quasiment aucun indice. Et au final, on le voyait, quoi. Donc voilà, non, c'est vraiment impressionnant.
Isabelle Autissier est une femme engagée. Elle a présidé WWF qui protège l'environnement, cette association. Vincent nous dit que, certes, il faut traquer la beauté, mais aussi faire prendre conscience à tout le monde que cette beauté est menacée. Est-ce que dans votre jeune approche du naturalisme et de la photo et de la vidéo, il y a ce désir de faire prendre conscience à celles et ceux qui vous suivent que tout ça est très fragile et qu'il faut protéger la nature ?
Ah bah évidemment, je crois que c'est ce qui m'anime. Avant je faisais plus de la photo, maintenant je me suis un peu redirigé, un peu comme Vincent, plus vers la vidéo. Et c'est aussi pour ça, par le sentiment que la photo, des fois on n'arrive pas forcément à toucher les gens autant qu'on le voudrait, qu'on n'arrive pas à transmettre les messages qu'on aimerait faire passer. Et par la vidéo, et par moi, par les réseaux sociaux, j'ai l'impression de pouvoir toucher des gens qui ne sont pas de ce monde naturaliste et qui peuvent être touchés par une petite intervention de nature sur leur écran pendant quelques secondes.
La photo n'est pas suffisante, Vincent Munier, c'est intéressant parce que c'est quand même votre vie depuis des dizaines d'années, la photo. Il faut passer au cinéma parce qu'il est plus grand public que l'image en soi.
Oh, je ne sais pas s'il y a une règle en tout cas.
Mais c'est ce que dit Antoine là.
Mais je pense qu'il a raison. C'est vrai que le fait qu'on ait l'image mouvante, le son, la musique, on peut plus rapidement embarquer, je pense, les gens. La transmission de l'émotion est peut-être plus efficace, plus simple. Et en effet, moi, c'est vrai que je suis un peu dépassé par ces nouveaux médias. Et là, c'est quand même chouette sur Instagram ou autre de voir des choses pertinentes comme celle-ci, qui sont ce qu'on défend dans tout le temps avec nos films. On touche beaucoup moins de monde. Et là, cette génération de jeunes, c'est quand même assez chouette.
Assez formidable, parce que c'est passionnant. On découvre tout grâce à lui et son Instagram. J'ai découvert justement le grand tétra que traque votre père dans les Vosges depuis tellement d'années et qui a écrit un livre d'ailleurs dessus. Je vois ce que c'est qu'un cerf de près. C'est un complément de la photographie au fond.
C'est assez impressionnant.
Vous vous êtes mis aux réseaux sociaux, Isabelle Autissier ?
Alors non, moi je dois être beaucoup trop vieille pour ça. Je suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Alors je peux participer bien sûr à travers le WWF ou à travers. Je suis assez sollicitée, donc ça je le refuse pas. C'est aussi parce que moi j'ai beaucoup moins le langage de l'image et je suis plus sur le langage des mots, que ce soit les mots écrits ou les mots parlés à travers la radio, où je me sens beaucoup plus à l'aise. Il faut pas me demander de faire une photo, ça va être super mauvais. Ouais. Quand je fais des
petits films avec mon téléphone, on a l'impression que je sors d'une poubelle. enfin, voilà. Moi, j'essaye de faire ce que je sais faire, et après, je suis prête à travailler avec des gens dont ça va être le métier.
On va écouter le père de Vincent Munier, vous voulez bien, Vincent ?
Bien sûr.
Michel Munier, il était venu d'ailleurs aussi dans votre grand atelier, hein, il nous avait fait Vous aviez pris le train très tôt le matin ensemble, vous veniez tous les deux des Vosges, et comme Antoine et comme vous, Vincent Munier, il sait chuchoter quand il est dans la nature pour ne pas effrayer les animaux qu'il a envie de prendre en photo, notamment ce grand tétras qui est en train de disparaître des Vosges.
On assiste à la fin d'une espèce dans ce massif, une espèce qui était présente depuis peut-être 5000 ans, voire plus. Et notre génération assiste à cette disparition. Donc c'est assez poignant, surtout quand on a suivi ces populations pendant plus de 30 ans.
On a géré la forêt pour la production de l'homme, donc on a détruit son habitat, c'était la première cause. Et puis quand l'ONF a compris, a essayé d'améliorer son regard sur cette forêt, il y a eu le développement touristique. Et le développement touristique, quatre saisons toute l'année, a été un drame pour cet oiseau-là, car il ne trouve plus la quiétude qu'il a comme dans les pays scandinaves.
Est-ce que vous en voulez aux touristes, Vincent Munier ?
Non, pas tant, parce que c'est quand même aussi, ça c'est une question qui est difficile, pourquoi est-ce qu'il y aurait certains qui auraient la possibilité d'aller dans la nature et pas d'autres ? Non, il faut quand même ouvrir le grand dehors à tout le monde. Après, c'est sûr qu'on est face à des défis avec des petits massifs montagneux et qui sont hyper fréquentés, donc comment faire pour garder des zones de quiétude ? En l'occurrence, la disparition du grand tétras, le tourisme a favorisé un peu, la structure de la forêt aussi, qui est devenue très industrielle, un peu à l'image de ce qui se passe en agriculture, mais surtout le réchauffement climatique, quoi. On est quand même sur un oiseau qui a besoin de grand froid, qui a besoin d'hivers rigoureux. Et moi, je le vois depuis ces 15 dernières années, c'est hallucinant de voir si peu de neige dans les Vosges. Donc il a pu ces conditions, principalement à cause du réchauffement climatique. Donc c'est vrai que c'est dur de vivre ça. Mais voilà, il faut rebondir. Qu'est-ce qui nous a appris cet oiseau ? Il était exigeant quant à la qualité de sa forêt. Donc ça, c'est quand même assez chouette de continuer. Là où on protégeait l'habitat du grand tétras, on a plein d'autres espèces, des insectes, des lichens, des petites chouettes. Et ce qui est important, c'est peut-être de ne pas se focaliser que sur une espèce, quoi, mais vraiment sur un milieu. Pour l'instant, ce qui manque au grand tétras, c'est ses hivers rigoureux, son habitat. Donc il vaut mieux le laisser dans le Grand Nord et puis continuer à préserver son milieu, les milieux d'autres espèces pour accueillir d'autres. Il y a les petites chevêchettes qui arrivent, le hibou grand-duc revient également. Et il y a beaucoup d'espèces du sud qui viennent, hein, des insectes, même des guêpiers, des roliers. Donc il y a vraiment un espèce de grand mouvement à cause de ce bouleversement.
On va voir si votre disciple est si doué que vous le dites. Vous êtes toujours là, Antoine ?
Je suis toujours là.
Sauriez-vous me décrire une chevêchette ?
Alors c'est une toute petite chouette de montagne. Elle fait quoi ? La taille d'un étourneau, peut-être ? Et une petite chouette incroyable qui vit dans les forêts de résineux, souvent, et qui niche dans les loges de pic et pêche.
Eh bien, vous avez 20 sur 20.
Exactement. C'est vrai ? Ah ben c'est gentil.
C'est vrai que vous êtes fils de naturaliste ?
Oui, mes deux parents sont biologistes. Alors, ma mère est plus botaniste et mon père entomologiste, donc plus les insectes. Et donc, voilà, j'ai grandi dans un bain de nature, dans un grand jardin aussi, où il y a beaucoup de biodiversité, donc beaucoup de nature, beaucoup de sauvages.
On va vous laisser avec vos meilleurs amis, les animaux.
Vous entendez peut-être les merles à plastron derrière moi, il y en a qui chantent. J'essaye de les trouver, mais je me disais
que c'était des merles à plastron.
J'en doute pas.
Isabelle va vous dire un petit mot pour vous dire au revoir.
Eh bien oui, ben quelle chance, hein. Quelle chance d'être dans cette belle nature. Et c'est vrai que la montagne, pour moi, c'est aussi la montagne et la mer, parce qu'il y a des tas de moments où il y a cette rencontre. Et quand il y a des marins et des montagnards ensemble, on s'entend super bien, quoi. Quand on rajoute photographe avec ça, ça marche bien.
Est-ce que papa Vincent, entre guillemets, peut dire un mot au fiston ?
Ça me fait. Écoute, bon affût, camarade. Et puis j'espère à bientôt. C'est vrai que le film, ça y est, on a terminé le mixage, donc c'est tout bon.
On va en parler un peu, puis travaille. Du livre aussi d'Isabelle Autissier. Salut Antoine !
À bientôt.
Salut, à bientôt.
Et revenez de temps en temps nous donner des nouvelles des animaux, et puis de vous surtout.
Avec plaisir.
Isabelle Autissier, l'écriture, moi j'ai l'impression en lisant... La fille du grand hiver chez Paulsen, que ça devient quelque chose d'indispensable à votre vie, que vous avez, on le sait, plusieurs vies. Il y a eu cette petite fille qui a 12-13 ans qui monte dans un bateau et qui devient accro, et puis cette compétitrice ensuite, et ensuite celle qui prend conscience qu'on défend la nature, qu'on s'engage politiquement et qu'on emmène aussi ses copains ou des inconnus, mais qui sont intéressants sur son bateau, et il y a l'écriture. Et là, vous racontez la fille du grand hiver, c'est une petite fille qui grandit au Groenland. On en parle beaucoup en ce moment, mais ça ne se passe pas aujourd'hui, hein. C'est au début du XXe, et cette petite fille qui devait mourir de faim, elle va devenir quelqu'un de très important.
Oui, c'est une belle figure. Alors, Arnarulungwak, donc je prononce sûrement pas
c'est
bien.
C'est son prénom.
Pas avec l'accent inuit. C'est un destin, et elle est très connue pour ça au Groenland. Elle fait partie des grandes figures, des figures historiques, au fond, puisqu'effectivement, c'est une fillette qui naît dans un igloo à la toute fin du XIXe siècle, et qui est promise à la vie de femme de chasseur. Hein. Or, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que c'est visiblement une femme à la fois extrêmement intelligente, extrêmement pugnace et avec un état d'esprit d'ouverture incroyable. Elle va finalement être intégrée dans une très grande expédition qui est celle de Rasmussen, hein, l'explorateur ethnologue qui avait des ascendances inuites d'ailleurs. Et ensemble, ils vont traverser tout le Grand Nord canadien pendant plusieurs années. Ces expéditions se passent dans les années 20, au moment où les blancs européens américains commencent vraiment à arriver et on commence à avoir cette confrontation, distorsion entre deux civilisations, entre deux sociétés. Donc voilà, tout ça et la trame qui m'a beaucoup intéressée.
Il y a du romanesque, hein, vous avez choisi la voie romanesque. Vous auriez pu faire un documentaire. Là, oui. Vous mettez en scène, la première scène est magnifique. Ils ont faim, ils trouvent un phoque et ils le mangent. Il y a du sang qui coule de leur bouche et eux, presque des larmes de plaisir.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre que dans cette époque, la nourriture est rare, difficile, la chasse est compliquée, on ne mange pas tous les jours. Et il y a un rapport effectivement à l'animal et à la nourriture qui est très pulsionnel, en même temps qui est incroyablement respectueux. On ne va jamais tuer plus d'animaux qu'il n'en faut, mais oui, il y a cette façon de dévorer la chair qui est aussi une façon de s'approprier un peu l'esprit de l'animal, qu'on va remercier d'ailleurs. Ça a un côté qu'on a beaucoup reproché d'ailleurs à tous ces peuples d'être bestiaux. Voilà, parce que nous, on mange des trucs cuits avec des couteaux et des fourchettes.
Les Inuits
eux,
sont des sauvages.
Mais voilà, il y a une espèce de. Justement, là aussi, de sorte d'équivalent. En même temps qu'on mange cette nourriture, on se remplit pas seulement de protéines, de graisses, mais on se remplit aussi d'un esprit.
Vous allez souvent au Groenland, Isabelle Autissier ?
Alors, j'y suis allée pas mal. J'y suis allée 4 ou 5 fois en bateau, à voile, donc avec mon fameux bateau.
Et puis, pour enquêter un peu sur cette femme.
Oui, alors pour faire des voyages avec des caméramans, avec des alpinistes, avec des gens qui s'occupent du plancton. Et à chaque fois, j'ai la chance d'y rester quand même un mois et demi, donc avoir un peu le temps d'apprivoiser ces paysages, de rencontrer un peu des gens.
Est-ce que c'est un pays où il faut aller quand on est touriste ?
On peut, il y en a de plus en plus.
Est-ce que c'est un pays pauvre ?
C'est pas un pays riche. Alors, c'est pas un pays, hein.
Vous savez, oui, je dis même pays,
même s'ils
pardon.
Ont un parlement local pour
un
gérer
territoire.
Leurs affaires, mais c'est un territoire. C'est pas un territoire riche, non, c'est sûr. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont assis sur la richesse, puisqu'ils ont à peu près tous les minéraux de la terre.
D'où l'intérêt de M. Trump.
Mmh. Et en même temps, enfin moi, ce que j'ai pu constater en discutant avec eux, c'est qu'ils sont assez distanciés par rapport à ça. Peut-être que l'exploitation minière peut leur amener le complément qui leur manque, au fond, pour devenir un pays vraiment indépendant. Employer leurs jeunes, qui n'ont pas de boulot, qui se suicident, c'est le taux de suicide le plus élevé du monde. Mais en même temps, ils ne veulent pas que ça détruise leur pays et ils ne veulent pas que ce soit accaparé par d'autres gens. Donc tout ça, évidemment, est une équation assez compliquée. Mais à chaque fois que... Enfin, ils adorent... Ils adorent leur pays, ils adorent leur paysage, ils adorent leurs animaux, ils adorent... Enfin voilà, ils ont gardé ça, je pense, des traditions inuites, c'est d'être vraiment, de faire corps complètement avec leur pays.
Je me tourne vers Vincent Munier. On parlera du film quand il sortira en décembre, que vous êtes en train de finaliser. Est-ce qu'on peut dire que le thème c'est « Je vais dans la forêt, je filme mon père ». Je filme peut-être mon fils, vous avez un petit garçon, enfin un adolescent, à la maison. Et je raconte ce qu'a été cette transmission familiale mais je montre aussi la forêt telle qu'elle est, les animaux qui restent, ceux qui ont disparu peut-être aussi sont évoqués. J'ai l'impression que le chant des forêts, c'est la transmission.
Oui, c'est un peu ça, comme on le disait au début de l'émission. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gratitude envers mon père. J'ai conscience de ce privilège, vraiment, et que ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. J'aurais pu grandir dans le 9-3 ou avec très peu de nature accessible. Donc là, j'en ai conscience. Donc j'ai envie de le partager au plus grand nombre et d'amener les gens à nos côtés. À l'affût, et de voir comment est-ce qu'il m'a appris finalement à se comporter, en disant ben voilà, on entre dans un milieu où tout est un peu en équilibre, c'est très complexe, c'est fascinant, mais on a quand même on peut avoir un impact si on s'y prend mal. Donc j'ai quand même eu cette éducation qui était quand même assez précieuse, ça m'a aidé même pour réussir des belles images, mais c'est d'appréhender la forêt un petit peu par contre comme conquérant, mais y aller sur la pointe des pieds. Et donc on est à nos côtés, on affûte, mais ces techniques, comment est-ce qu'il fait pour passer ses nuits sous un sapin? Il en a passé plus de 1000 pour tenter d'observer cet oiseau du grand tétras. Et là, on emmène mon fils, en effet. Il y a une histoire, je ne voulais pas jamais trop filmer, rentrer trop dans l'intimité de la famille.
Il a 14 ans, 15 ans.
Il a 14 ans, on l'a filmé, il avait 12-13 ans.
Et il se prénomme comment?
Simon. Voilà, donc il sera aussi dans ce film, parce qu'il y avait ce besoin d'embarquer les gens. Il ne fallait pas que ça soit un peu intimiste entre mon père et moi seulement. Mais j'ai conscience, c'est un peu comme ce qu'on disait sur la biodiversité, on peut ramener la vie à quelque chose de concret. Et là, c'est pareil avec les enfants.
Dès
que je vais dans
les
écoles, je sais que ma passion, la photo, les images, les animaux, on les captive. Et ça, c'est quand même pas rien.
Oui.
Et à l'âge de 12 ans, il se passe souvent quelque chose.
Mais oui, parce que
c'est un âge charnière.
Vincent Munier, venant il y a 3-4 ans dans le Grand Atelier, me disait: mon fils, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout dans le naturalisme, dans l'observation, dans les photos, dans les animaux et dans la sacralisation peut-être aussi de la beauté. Il est plutôt attiré par le spectacle. On l'a emmené à l'opéra l'autre jour, il a adoré, il aime toucher au tissu, faire des marionnettes. Et là, vous me dites, je l'ai emmené. Et...
Mais c'est toujours ça. Il a cette poésie plutôt dans le déguisement, dans la décoration. Il est très curieux. Il a les yeux qui regardent partout. Mais n'empêche que, il me semble que c'est précieux d'avoir ces valeurs que mon père m'a inculquées. Mais et après, chacun prend son chemin. Moi, j'ai pas envie qu'il suive mes traces, absolument, mais vraiment pas.
Dit-il en l'emmenant dans la forêt.
Mais oui. Mais par contre, c'était une expérience, parce que quand on est gamin à 12 ans, on a une capacité d'émerveillement qu'on n'a plus quand on est grand. Elle est vite quand même assez fracassée par le rouleau compresseur de la société. Et ça, il faut le raviver, il faut le ranimer, il ne faut pas l'éteindre. Et c'est un peu ça. Simon est dans ce film pour essayer d'embarquer avec nous les jeunes de son âge, vraiment.
C'est formidable d'avoir à la fois filmé votre père et filmé votre fils. Enfin, je pense que vous aviez envie de garder des images de tout ça.
Alors aussi,
que c'était certainement votre film le plus intime.
Qui s'arrête, c'est le film le plus intime, ouais, complètement. Mmh.
Dans un instant, on va parler d'une exposition consacrée aux sorcières, qui va commencer au musée de Pont-Aven, dans le Finistère. Ce sera juste après l'américaine Kali Uchis.
Sunshine away, the seasons change. We all need somebody to do that someone to make. There's sunshine away, the seasons change. We all need somebody that makes the earth feel heavenly.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Isabelle Autissier, Vincent Munier, on va se rendre en Bretagne où commence le 7 juin au musée de Pont-Aven l'exposition Sorcières au pluriel 1860-1920, Fantasme, Savoir, Liberté. Nous sommes en ligne avec la conservatrice en chef peinture et arts graphiques du musée d'Orsay. Bonjour Laïla Jarbouet.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Mais je vous en prie, ça nous passionne cette histoire de sorcière, puisqu'effectivement, depuis les années 70, la sorcière qui était auparavant une femme acariâtre, laide, méchante, dangereuse, ça devient un mythe qui cristallise les revendications des féministes. C'est l'emblème de la résistance contre le patriarcat. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, le livre « Sorcière » de Mona Chollet. Mais vous, c'est à partir de la deuxième moitié du 19e que vous vous intéressez aux sorcières.
Oui, alors on ouvre un petit peu avant avec les débuts du romantisme. L'exposition s'ouvre avec quelques œuvres de Goya. On a aussi Delacroix et Victor Hugo, figures essentielles dans la transformation de la figure de la sorcière, puisque Victor Hugo, avec Esmeralda, crée les débuts de la sorcière moderne, révoltée, marginale. Et on a choisi le tournant des années 60 parce qu'en fait, le vrai point de départ de cette vision moderne de la sorcière, c'est avec Jules Michelet dans son livre « La sorcière », publié en 1862, dont le manuscrit est d'ailleurs exposé dans l'exposition, un prêt magnifique obtenu pour l'exposition. Et Jules Michelet fait de la sorcière une figure politique, une figure de subversion et de contre-culture.
Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des tableaux, on voit des sculptures. Est-ce que vous faites appel aussi à la photographie, au cinéma ?
Oui, alors pour être en accord avec cette figure marginale et originale de la sorcière, nous avons voulu décloisonner les arts et ne pas faire de hiérarchie entre les arts. Donc on voit vraiment toutes sortes de types d'œuvres, d'art. Donc il y a des peintures, des sculptures, des photographies, des livres, des estampes, des dessins, même des bijoux, des objets d'art, enfin vraiment tout type de techniques.
Il y a la présence du feu dans cette exposition. Racontez-nous pourquoi.
Oui, en effet, le feu est le fil conducteur de l'exposition, puisque le feu est associé à la sorcellerie et aux sorcières. Déjà, elles ont été condamnées dans l'histoire, en fait, brûlées sur les bûchers pour être totalement anéanties. Donc, on évoque notamment Jeanne d'Arc, hein, qui a eu un rôle vraiment important dans l'imaginaire de la sorcière au XIXe siècle. Et ensuite, l'exposition se décline en trois sections autour du feu. Les feux de la nuit, avec le feu du sabbat et ses feux pervertis et animés par le vent. Le feu au corps, puisque le désir est vraiment central dans la vision de la sorcière, le désir féminin, mais aussi évidemment le désir masculin porté sur la femme. Et le feu du savoir, en troisième section, où on montre les sorcières dans le feu de l'action, justement, autour du feu, à concocter des potions, notamment à travers un grand ensemble d'œuvres de Paul Ranson.
Si vous aviez la possibilité d'emporter une œuvre chez vous, soyons fous, ce serait laquelle ?
Alors, c'est peut-être totalement inattendu, mais ça serait peut-être une œuvre d'une artiste du XXIe siècle. Un tableau de la série Sorcières, peint par la peintre Dalila Daleas Bouzard, qui est une peintre engagée et qui fait de la sorcière une femme puissante et libre.
Merci Laïla Jarbouet, je me tourne vers Isabelle Autissier. Les sorcières, ça vous parle ?
Oui, bien sûr. Alors peut-être que moi, au XIXe siècle ou avant, on m'aurait décrété sorcière, hein, puisque je suis allée sur des territoires où normalement les femmes n'allaient pas, hein, que ce soit la pêche, la course, etc. Puisqu'on voit bien qu'en fait, c'était la question des domaines réservés. Hein. Tant que les femmes restaient à la cuisine, tout allait bien, mais quand elles commençaient à se projeter dans le monde, ça devenait louche, ces désirs de puissance. Donc évidemment, moi je suis solidaire des sorcières.
J'aime bien l'idée d'interviewer une sorcière. Merci Laïla Jarboué.
Merci beaucoup à vous, merci.
Bonne exposition sorcière au musée de Pont-Aven. C'est un partenariat avec le musée d'Orsay. Le musée de Pont-Aven qui fête ses 40 ans cette année et l'exposition sorcière a lieu du 7 juin au 25 novembre. C'est déjà l'heure de nous quitter, Isabelle Autissier.
Oh, bah alors.
La dernière fois que vous étiez venue, il y avait 2 heures, mais là, il y a 1 heure et on est déjà content. Merci aussi Vincent Munier. On vous attend en décembre alors pour le film.
Je viendrai vous en parler. Avec plaisir.
Isabelle, c'est la fille du grand hiver que vous pouvez lire chez Paulsen. Est-ce qu'Isabelle Autissier va remonter sur un bateau cet été?
Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le bateau m'attend en Écosse et on va aller faire justement le tour non seulement du Spitzberg mais de l'ensemble de cet archipel, le Svalbard qui est donc très très loin au nord et voilà. Je pense que j'espère que ça va être encore.
Et parmi les guests, il y aura qui sur ce bateau?
Alors c'est pas des gens. Si, il y a quand même quelqu'un que Vincent connaît bien puisque
un ami commun, bien sûr.
Il travaille avec lui qui est un caméraman qui sera avec nous sur.
Qui était
Laurent Geoffrion. Oui.
Laurent Geoffrion.
Voilà, un ami de longue date.
Qui est déjà venu avec moi dans le nord du Groenland et là qui va venir sur le Spitzberg.
Vous verrez quels animaux pendant ce voyage d'après vous?
Oh, bah, on va voir tous les mammifères marins, normalement. C'est là aussi, mais avec Vincent d'ailleurs, que j'ai vu ma seule baleine bleue. Avait vue dans le nord du Spitzberg. C'était impressionnant. Dans une baie, on a vu à peu près toutes les baleines possibles. Il y avait une profusion incroyable. Des ours, bien sûr, mais aussi des petits renards, mais aussi des oiseaux.
C'est extraordinaire,
non,
une
mais
baleine
c'est
bleue
moment, moi, déjà, c'était une de mes premières et les conditions étaient exceptionnelles. Il y avait une mer, c'était pétole, comme tu dis, dans une petite crique, et elle est venue tout près du bateau. On a aperçu son œil. Enfin, moi, j'ai été vraiment transpercé par cette rencontre, vraiment.
Vous voyez qu'on ne s'émerveille pas seulement à 12 ans. Merci à tous les deux, ça fait du bien de vous entendre. Lucie Lemarchand a réalisé cette émission préparée avec Louise Tempero, Virginie Rosic, Betty Algray. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Et aujourd'hui, à la technique, c'était Rémi Sistiaga. Samedi prochain dans la balade à 17h, c'est Julien Clerc. Et le lendemain, dans le grand atelier, c'est le plasticien Jean-Michel Autoniel qui reçoit Catherine Deneuve.